Oye, negra querida, la cumbia te está llamando.
Bonjour, voilà, bonjour tout le monde. On se retrouve donc sur les ondes de Radio Galère, 88.4 MHz, et sur Internet via le site de la radio, www.radiogalere.org, et puis sur le DAB également. Voilà, vous avez le choix. Et on se retrouve bien entendu avec Roselyne, que je salue, qui est dans la cabine technique sous son casque.
Oui, bonjour, je salue tout le monde.
Voilà, et en l'absence de d'Habib, qui est retenu chez lui, pour des problèmes familiaux. Donc l'actualité est comme d'habitude abondante. Alors, je vais peut-être commencer par un balayage de résultats électoraux, puisque ça nous fera une entrée en matière. Alors, je commence par le résultat qui était le plus attendu et le plus surprenant, qui est le résultat final de l'élection présidentielle en Roumanie. Alors, j'allais dire, ouf, ils y sont enfin arrivés après avoir annulé une première élection, après en avoir organisé une deuxième, qui laissait penser que, vu le candidat arrivé très largement en tête au premier tour, le monsieur Simeone, il risquait effectivement, vu qu'il était presque à 45% des voix au premier tour et que derrière les autres étaient à 20 ou en dessous, il avait de bonnes chances de passer le cap. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'il est sorti de l'ombre, une espèce d'outsider, qui est donc l'actuel maire de Bucarest, qui a eu un succès extraordinaire, 54% des voix. Comment s'est fait ce report des voix, on ne sait pas trop, mais surtout ce qu'il y a d'important à savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'électeurs dans ce deuxième tour qu'au premier. Alors ces électeurs seraient venus d'après, alors au moment où je vous parle, on n'a pas une confirmation de tous les résultats, on a eu des sondages, on a eu des estimations, mais il semblerait bien que ce soit les votes de la diaspora qui massivement se seraient portés sur le nouveau président, monsieur, il s'appelle monsieur Dan. Alors je ne sais pas si c'est le premier Dan ou le septième Dan, on verra, mais il est là, et donc il est le président choisi manifestement par l'Union européenne et par la bande à von der Leyen. Qu'est-ce que ça augure ? Bon, je sais pas. Je pense que les Roumains pourront une partie des Roumains pourra dire qu'elle a été roulée dans la farine, qu'on a manipulé l'élection. Bon, on peut considérer, je pense qu'on en est satisfait aussi bien à Bruxelles qu'à l'Élysée, que toute cette manipulation électorale, donc qui dure depuis 6 mois, avec donc l'annulation de la première campagne pour éviter que M. Georgescu arrive au pouvoir, la disparition dans la bataille. Donc, du nouveau candidat, M. Simeone, l'étrange candidat. D'ailleurs, on ne pleurera pas son départ, puisque M. Simeone siège quand même. Il est, lui, député européen. Il siège dans un groupe d'extrême droite. Donc, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et de s'approfondir, de s'apitoyer sur son échec. Simplement, il y a un gros travail qui a été fait dans les coulisses, un gros travail probablement de corruption, d'intervention, de pression, qui donne une idée des pratiques telles qu'elles se développent aujourd'hui, aussi bien à Bruxelles qu'autour de l'Élysée et du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que je pense qu'à ce niveau-là, je pèse mes mots, on ne reculera plus devant rien. Toutes les méthodes sont possibles de corruption, de menaces, de trafic d'influence. Tout y est. Tout y est, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'effondrement de la Ve République et l'effondrement de la République en même temps, c'est-à-dire aucune confiance à accorder à ce personnage et à son entourage. Pour vous donner un exemple récent aussi, ce monsieur, donc le petit Emmanuel dont je parle, a reçu dernièrement le nouveau président de l'Équateur. Alors le nouveau président de l'Équateur, c'est M. Noboa, c'est le fils héritier du roi de la banane équatorienne. Alors le roi de la banane équatorienne, c'est pas lui qui vend le plus de bananes en Équateur, c'est le premier négociant, c'est le premier vendeur de bananes au monde. En particulier, il tient dans sa main le marché des États-Unis de la banane. Bon. Et Macron reçoit ce monsieur, comme ça, à Paris, entre deux portes, je pense, il le reçoit bien, et il lui organise un rendez-vous à la banque Rothschild. Écoutez, Monsieur Macron organise des rendez-vous pour des chefs d'État à la banque Rothschild. Alors, Monsieur Macron, il a toutes les facilités puisqu'il a été donc associé gérant de la banque Rothschild. Il a ses entrées, il connaît tout le monde. Et s'il y a du business à faire entre le roi de la banane et la banque Rothschild, Monsieur Macron a servi d'intermédiaire. Voilà, voilà ce qu'est aujourd'hui le président de la République française. Un intermédiaire dans des transactions peut-être douteuses, je ne sais pas quels sont les projets de Noboa. Je rappelle que Noboa, d'une part, a triché sur les élections présidentielles, puisque la candidate qui avait gagné a été poussée à l'extérieur. Enfin, on n'a pas accepté toutes les critiques qu'elle a pu faire, qui étaient très nombreuses sur l'organisation du trafic électoral. Et puis M. Noboa vient de réussir un deuxième coup, qui est d'obtenir la majorité parlementaire, c'est-à-dire que désormais, et M. Rothschild devra bien le traiter parce qu'il est puissant. M. Noboa, à la fois la présidence de la République et un Parlement à sa dévotion. Alors pourquoi il arrive à avoir un Parlement à sa dévotion ? Eh bien, il a fait une opération qui ne surprendra que ceux qui ne connaissent pas la récente histoire de l'Équateur. Il se trouve qu'en Équateur, les tribus indigènes, il y a comme dans d'autres pays d'Amérique latine des tribus indigènes sur le territoire de l'Équateur, comme il y en a au Pérou, comme il y en a en Colombie et tout, ont joué depuis quasiment une trentaine d'années un rôle politique important, mais un rôle politique ambigu, puisque finalement, ces tribus indigènes, ou au moins leurs leaders, ont toujours fait pencher leur suffrage du côté de la droite. Toujours, toujours. Jamais dans un sens progressiste. Ils ont en particulier très largement saboté la présidence d'Emmanuel Correa qui tentait un développement de son pays sur des recettes plus classiques, donc dans le sens de l'éducation, de la formation, de la santé, etc. Ce sont les minorités indigènes, ou plutôt ceux qui parlent au nom des indigènes d'Équateur, qui ont torpillé le programme de M. Correa. Et là, on a M. le malin de la banane, M. Noboa, est venu leur dire « Votez pour moi au Parlement et vous il va avoir des petits cadeaux, on fera quelques investissements dans les zones tribales et puis voilà, ça s'arrêtera là. Donc ne pas confondre, il faut toujours regarder la position politique des gens. Ne pas confondre le fait que vous êtes une tribu indigène ou vous êtes le porte-parole d'une tribu indigène qui a été souvent, c'est vrai, maltraitée par le colonisateur espagnol ou éventuellement portugais. Ça n'empêche que vous n'avez pas, parce que vous êtes indigène, une position politique correcte. Une position favorable à l'émancipation du peuple, pas simplement à l'égoïsme de chaque tribu. Bon. Or, c'est ça la réalité politique équatorienne, et elle est depuis longtemps. Je n'invente rien. Pratiquement depuis la fin des années 90, depuis la fin du XXe siècle, c'est toujours comme ça que ça s'est passé en Équateur. Et donc là, on n'a que la répétition d'une posture et d'un mécanisme qui a fonctionné. Voilà, donc j'en reviens donc à la réception de M. Noboa, le magna mondial de la banane, par M. Macron. Ça n'avancera pas les affaires de la France qui n'a pas d'intérêt ou qui ne seront pas défendues sur place, je pense. Ça n'empêchera pas que l'Équateur de M. Noboa a vendu les îles Galapagos aux États-Unis pour y faire une base militaire. Alors, je rappelle que les îles Galapagos sont considérées comme un des trésors de la planète verte et de protection des espèces. Eh ben, l'armée américaine va y mettre les pieds avec, on imagine, la sollicitude et le soin de la nature qui les caractérise. Bon. Tout ça pour reparler de ce président de la République, alors qu'il y a certainement, on n'a pas de détails, mais ça finira par cela, a joué un très très grand rôle dans l'élection surprise en Roumanie, qui a amené, on peut dire, le candidat de l'Union européenne a été imposé par des manœuvres douteuses de coulisses dont on ne connaît pas tout, mais c'est manifeste. Ça, c'était la première élection de ce dimanche. Alors pourquoi l'Union européenne et pourquoi spécialement la République française s'intéressait à manipuler cette élection ? Tout simplement parce que la France a un rôle central dans le dispositif de l'OTAN contre la Russie, puisque la France est à la tête de la principale base de l'OTAN qui est installée en Roumanie. Et c'est de là que devrait partir, alors je mets les guillemets qui s'imposent, c'est de cette base française, donc sur le territoire roumain, que devraient partir les troupes françaises qui iraient se livrer à l'assaut du Kremlin. Alors, bon, je mets ça, j'ironise à peine, mais c'était bien ça le but. Et donc, effectivement, il fallait absolument qu'il n'y arrive pas, que n'arrive pas au pouvoir à Bucarest un président qui aurait dit « Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec l'Ukraine et la Russie ? Ça ne me concerne pas, je suis pour la paix. » C'était la position de M. Georgescu, c'était à un moins degré la position de M. Simeon. Et donc, effectivement, ce risque-là est écarté. La France garde cette possibilité d'attaquer la Russie dans le conflit ukrainien. Alors, on lui souhaite bien entendu bien du plaisir, mais je pense que on n'en est même plus là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de posture en disant « J'ai la capacité d'attaquer moi tout seul. Hein, » On dirait Tarzan qui est en train de sauter sur une liane. « J'ai la capacité d'attaquer moi la Russie. Je vais y aller. Suivez-moi. » Et puis payez au passage, parce que ça va quand même un peu coûter. Mais ça, vous êtes bon pour payer. Je vous considère d'ailleurs comme des cochons de payants. C'est tout ce que vous êtes. Hein. Je vous méprise et je vous le dis, je vous le dis pas clairement, mais mes actes confirment que je vous méprise, bien que j'ai 20% d'intentions favorables dans l'opinion française. Voilà, bon, revenons pas trop sur Macron. Alors c'était la première élection, c'était l'élection roumaine. L'élection polonaise est intéressante aussi, puisqu'en fait, les partis de droite qui s'opposent au président sortant, M. Tusk, qui a été de tous les complots avec Macron, Starmer, Merz, par rapport aussi à la situation ukrainienne et contre la Russie. Ce parti de droite est en mauvaise... Ce parti de gauche, de centre-gauche est en mauvaise posture. Et les partis de droite qui ont glané beaucoup de suffrages ont fait un certain nombre de commentaires sur la situation ukrainienne. Et je vous les lire. Alors je commence par le parti Droit et Justice, qui est le principal, qui a eu 30% des voix et qui a eu le pouvoir il n'y a pas si longtemps. Alors ce parti et son porte-parole, son candidat, a déclaré que l'Ukraine n'aurait pas sa place dans l'OTAN et dans l'UE tant qu'elle n'aura pas réglé les questions, alors regardez comme c'est gentiment dit, les questions civilisationnelles, c'est entre guillemets, faisant référence au massacre de Volhynie en 1943 commis par les nationalistes ukrainiens. Il faut savoir que les nationalistes ukrainiens, et encore la formulation est très gentille, j'allais dire les néo-nazis, non, qui étaient nazis, même pas néo à l'époque, sont allés massacrer en Pologne des gens qui n'étaient pas de leur avis. Hein, sous prétexte que c'était en particulier des juifs. Hein. Vous savez qu'en gros, la situation de la population juive en Pologne fait qu'il y avait plusieurs millions de juifs en Pologne en 1939, il n'y en a pratiquement plus du tout. Et donc, il est passé là toute une série d'actions, en particulier les actions des nazis ukrainiens. Bon, ça, c'est ce qu'on rappelle. Alors, c'est très joli, ils sont trop gentils. Question civilisationnelle. Non, un nazi, c'est un fasciste, c'est une brute, c'est tout. Ouais, c'est pas une question civilisationnelle. Hein. Bon. Alors, ensuite, toujours sous le porte-parole de Droit et Justice, il a accusé les élites européennes, alors il le met ça entre guillemets aussi, et leur majordome, donc le président actuel de la Pologne, M. Tusk, d'avoir aggravé le conflit ukrainien. Voyez, on nous a dit ici, la Pologne soutient contre la Russie, etc. Ben, c'est pas exactement comme ça que c'est perçu. Et puis il a promis de protéger les agriculteurs et les camionneurs polonais de la concurrence déloyale ukrainienne. Parce qu'effectivement, tous ces Ukrainiens qui ont fui les combats pour ne pas être mis sous l'uniforme de force, ben, bricolent comme ils peuvent avec les métiers qu'ils trouvent. Alors, soit effectivement, ils sont camionneurs et ils prennent la place des camionneurs polonais en étant payés au lance-pierre, soit effectivement, ils vendent sur le marché à des prix des produits agricoles qu'ils ont fait, des pommes de terre de leur champ, et donc l'agriculture polonaise en souffre. Le deuxième parti, qui s'appelle la Confédération, qui a aussi eu 15% des voix, a appelé à ne pas déployer des troupes polonaises et de l'OTAN en Ukraine, a qualifié d'illusoire la coalition des volontaires européennes. Vous savez, c'est le fameux projet de Macron et de Merz et de Starmer, la coalition des volontaires. A condamné la glorification de Bandera par l'Ukraine, un criminel responsable du meurtre de 100 000 Polonais. Rien que ça. Alors c'est la même histoire que celle qui est en-dessus, sur la Volhynie. Bon, a averti l'Ukraine qu'elle ne veut pas nous traiter comme, elle ne doit pas nous traiter comme des pigeons. On nous calomnie, on nous insulte, nous n'avons aucune gratitude pour ces gens-là. Et le dernier parti qui était sur ces lignes-là, qui s'appelle la Confédération, qui a eu 7% des voix, il a annoncé un programme de stop à l'ukrainisation de l'Ukraine. Et il a qualifié de braquage le vote du Parlement européen sur l'aide à l'Ukraine financée par les avoirs russes gelés. Et il a déclaré enfin que le régime ukrainien était l'un des plus corrompus et des plus mortels pour ses propres citoyens. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que l'Ukraine, ils ont une frontière commune, ils ont les yeux sur ce qui s'y passe et ils ont des témoignages fréquents justement avec les gens qui vont, qui viennent, les camionneurs ukrainiens qui passent, les réfugiés ukrainiens, il y en a beaucoup qui sont allés en Pologne parce que c'était le plus près, etc. Donc, ils savent très bien de quoi il s'agit. Et il est allé enlever, alors le sommet, c'était l'aide militaire à l'Ukraine ne fait que prolonger la guerre, voilà, lors d'un débat au Parlement européen. Bon. Donc voilà ce qu'on dit dans ce qui est l'opposition polonaise aujourd'hui. Mais si je fais le compte 30 plus 15, 45 plus 6, en fait, ces trois partis sont majoritaires aux élections parlementaires. On verra bien ce qui se passe. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a d'autres gens que des va-t-en-guerre dans ce pays à qui on a voulu faire jouer, y compris au niveau de l'OTAN, le rôle de celui qui va, d'où vont partir tous les bombardiers, tous les missiles, etc., qui va servir à intervenir et à ne pas être attaqué, lui, par la Russie, puisque la Russie n'attaquera jamais la Pologne. On le sait. C'était la deuxième élection. La troisième, dont je vais parler aussi, voilà. La troisième, c'est l'élection au Portugal. Alors, il n'y a pas, là, pas de grand événement, si ce n'est que l'extrême droite est arrivée troisième, qu'elle est passée donc de 50 sièges à 58 sièges, c'est un gain de plus de 10%, qu'elle est à égalité avec le Parti Socialiste, parti historique au Portugal, et qu'elle continue son ascension vers le pouvoir. Alors elle n'y est pas, ils sont troisième parti, ils ont 22% des voix, mais la droite qui est arrivée au pouvoir à travers le Premier ministre, M. Monténégro, a de quoi se faire des soucis. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement il y a un espèce de repli, d'abord crise économique, stagnation, du PIB comme dans la plupart des pays d'Europe, et donc ces difficultés économiques se traduisent toujours ou presque toujours par le fait qu'on trouve un responsable des difficultés économiques et on le trouve dans l'immigration. Alors c'est pas la peine que je vous fasse un dessin, c'est le schéma qui fonctionne en France à longueur de journée, ça fonctionne aussi au Portugal. Donc un parti qui dit nos problèmes viennent non pas de la politique européenne, non pas de ceci, non pas de cela, mais du fait qu'il y a des immigrés chez nous, ce parti-là engrange des résultats de plus en plus spectaculaires. Je souligne que ce parti qui s'appelle Chega a été créé en 2019 et il se trouve déjà le troisième parti portugais avec 23% des voix. Ouais, donc on a des taux de croissance considérables, toujours sur le même thème et toujours par rapport à cette crise économique généralisée dans l'Union européenne. Mais l'Union européenne ne se préoccupe pas de ça, l'Union européenne veut la guerre avec la Russie, on a compris. Voilà ce que je voulais dire sur ces épisodes électoraux. Il y en aura d'autres, mais ils ne sont vraiment pas très brillants, ni les uns ni les autres. Heureusement, il y a d'autres nouvelles qui sont d'une autre portée. Alors, la grande question, bien entendu, qui a été agitée, ça a été l'évolution de la, alors appelons ça comme on veut, la négociation sur la fin de la guerre en Ukraine. Alors, je rappelle quand même qu'on avait annoncé l'accord des deux parties, donc ukrainienne et russe, à la demande du président Trump, de se rencontrer pour recommencer des négociations. Alors, j'emploie le terme « recommencer », puisqu'il s'agissait bien de repartir du même endroit, donc un immeuble appartenant à la présidence de la République turque à Istanbul, avec les quasiment au moins du côté russe, exactement la même équipe, à quelques personnes près, pour repartir la même analyse de la situation. Bon. Alors effectivement, la même analyse de la situation, on ne peut pas faire aujourd'hui l'analyse de la situation sur le terrain comme on pouvait la faire au mois de mars ou au mois d'avril 2022. Parce qu'effectivement, la situation a changé radicalement. Et il faut se souvenir que l'accord qui avait été approuvé par la délégation ukrainienne de l'époque, et donc par les deux délégations, russe et ukrainienne, a été torpillé par M. Boris Johnson, et que donc on a continué, c'est M. Boris Johnson et donc l'OTAN indirectement, qui ont décidé de continuer la guerre, que c'est pour parler, et cet accord n'avait pas de valeur. Donc la guerre a été décidée, la poursuite de la guerre a été décidée par un des membres éminents de l'OTAN, et je le cite, puis c'est lui-même qui est venu dire « je suis contre cet accord », Monsieur Boris Johnson. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il n'est plus possible de tenir les mêmes raisonnements qu'on pouvait tenir au mois d'avril 2022, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Dniepr. Beaucoup d'eau, ça veut dire que... Ça veut dire que la Russie a agrandi son territoire. Alors, elle n'a pas agrandi simplement en envoyant des soldats et des avions. Elle a agrandi son territoire, j'insiste là-dessus parce qu'on veut toujours nous le cacher, parce qu'elle a organisé des référendums auprès de la population de quatre des régions qui sont aujourd'hui encore à la marge des régions où il y a un combat entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Ces quatre régions, je les rappelle, c'est donc les deux régions du Donbass, Donetsk et Lugansk, la région de Kherson et la région de Zaporizhzhia. Bon. Ça, on est très clair là-dessus. Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire c'est la loi des armes et tout. Non, quand il y a derrière la population qui vote, qui a été interrogée, qui a pu voter et qui dit je suis très majoritairement, mais très très majoritairement favorable au rattachement à la Russie, quand ensuite le Parlement russe accepte ces quatre nouvelles républiques russes dans la Fédération de Russie dans des conditions que personne n'a contestées, vous ne pouvez pas dire, c'est impossible de dire sérieusement que la situation est la même qu'au mois d'avril 22. Vous l'avez là, plusieurs millions de personnes qui ont décidé de sauver leur langue, le russe, qu'on voulait leur interdire de parler, de se rattacher à la Russie dont ils ont été membres très très longtemps. Et donc, c'est ça la donnée. Alors, tous ceux qui font des commentaires sur la ligne de front, il faut s'arrêter, un cessez-le-feu et tout, font comme si ces millions de personnes n'avaient pas le droit de vote et de s'exprimer sur leur avenir. C'est faux, c'est faux. Alors autant on gargarise de droits de l'homme et tout, le premier droit de l'homme, c'est dire, moi je veux vivre dans tel pays, je veux avoir le droit de parler ma langue natale et je veux rentrer dans un pays où je suis avec des gens qui sont d'accord avec moi et qui me protègent. C'est ça l'adhésion de ces quatre républiques. Alors ça, évidemment, le gouvernement de M. Zelensky ne veut pas l'entendre. Bon, on comprend qu'il ne veut pas l'entendre. Mais il faudra bien qu'il s'y fasse. C'est ce qui fait qu'il a été contraint, en fait, je reviens là-dessus, à revenir négocier en sachant très très bien, et c'est d'ailleurs ce qu'il a écouté dans la bouche de la délégation russe le jour, pas le jour, on va y revenir, le lendemain du jour où il devait se réunir, la délégation russe a confirmé que la situation était telle qu'on ne parlait pas dans les mêmes termes d'une même situation qu'il y a 3 ans. C'est tout à fait clair. Alors pourquoi pas le jour même? Parce qu'en fait, là, la comédie du pouvoir Zelensky est totale, puisqu'en fait, M. Zelensky, Volodymyr, donc Vladimir en russe, c'est la même chose, M. Zelensky est venu d'ailleurs à Istanbul et a dit « Moi, je veux parler qu'avec Poutine ». Ah ben, alors tu peux toujours le dire, alors redis-le, tu peux le redire pendant 50 ans si ça t'amuse, c'est pas prévu, c'est pas ça une négociation, c'est pas je passe une demi-heure ou un quart d'heure avec Poutine sous les caméras du monde comme il a fait, comme Zelensky a fait avec Trump au Vatican, c'est pas ça une négociation et qui doit déboucher sur un traité de paix, c'est on discute longuement, on se met d'accord, on voit la position des populations, on voit toute une série de choses, le droit international, mais c'est pas le fait de s'asseoir sur une chaise et devant les caméras du monde, de bavarder avec Vladimir. Hein. Volodymyr, en russe, ça veut dire hein, Volodymyr, en ukrainien, c'est Vladimir. Les deux Vladimir face à face. Le dit Volodymyr, d'ailleurs, prononcé à l'Ukraine, je précise que les gens qui savent, je n'ai pas l'oreille exercée à ça, mais disent qu'il parle très très mal l'ukrainien, parce qu'il a été éduqué dans la langue russe, comme la majorité des citoyens d'Ukraine. Bon. Et donc, M. Poutine ne s'étant pas rendu à l'invitation de M. Volodymyr Zelensky, la négociation ne démarrait pas. C'est-à-dire que la journée, donc c'était jeudi dernier, la délégation russe est arrivée, elle s'est installée à l'endroit prévu, avec le ministre des Affaires étrangères turc qui était là pour ouvrir la séance et installer les deux délégations face à face dans une salle de réunion, comme on le voit. Tout le monde attendait. Et tout le monde attendait jusqu'à ce que M. Zelensky ait fini sa comédie. Je ne veux parler qu'au président. Hein ? Bon, alors, comme il ne semblait pas comprendre la réalité de la situation, M. Trump a été obligé de lui envoyer M. Rubio. M. Rubio s'est précipité à Istanbul. Il était avec le président des États-Unis au Moyen-Orient. Donc, il a sauté dans un avion et il est venu dire à Zelensky, arrête sa comédie. Si on veut au moins donner l'apparence. Alors là, j'interprète les positions de Rubio, mais vis-à-vis de l'opinion mondiale, il fallait dire que la négociation démarrait vraiment. Et là, elle ne démarrait pas, puisqu'il n'y avait pas de délégation ukrainienne. Donc M. Rubio arrive, lui tire les oreilles, en gros, on peut dire ça comme ça, dit maintenant, tu t'en vas, hein, et puis tu laisses la négociation commencer. Alors tout ça a pris une partie de la journée, donc la délégation russe était là, bien sagement dans la salle, la presse internationale était là, assise sur des chaises, alors il fumait, il tapotait sur le clavier d'écran, il s'ennuyait ferme, hein, il y avait rien qui se passait. Bon. Et finalement, en fin d'après-midi, Zelensky est parti. Il a compris les injonctions des États-Unis, il est parti. Il est allé où ? Il est allé en Albanie. Ah bon, il allait prendre un bain ? Non, non, il est allé en Albanie parce qu'il se réunissait en Albanie sous la présidence de Mme von der Leyen, une réunion des ministres des Affaires étrangères européens pour dire qu'il fallait être ferme vis-à-vis de la Russie, qu'il fallait rien lâcher et que l'Europe était là pour bien défendre les intérêts de la population ukrainienne. Alors là, Zelensky était tout à fait à son aise, mais au moins les États-Unis avaient obtenu qu'il soit écarté de la négociation. Ça, c'était donc le jeudi vers 18-19 heures, quand on dit « Ah, ça y est, il est parti, ouf, on va pouvoir commencer à négocier ». Alors, il était tard, et donc la réunion a vraiment eu lieu le lendemain. Voilà, les deux délégations se sont retrouvées. La réunion a duré 2 heures. Elle s'est tenue, paraît-il, en russe. Ce n'est pas une surprise, parce que de toute façon, tous les Ukrainiens parlent russe. Hein, et c'était la langue commode, puisque alors il y avait théoriquement des interprètes, etc., mais en fait, pratiquement, ils parlent tous très très bien, ils entendent très très bien le russe, donc ça s'est tenu en russe. Les Russes ont donné leur position, les autres aussi, et comme les Russes ont expliqué ce que je viens de vous expliquer en disant « Mais nous, on a toute une série de républiques, les 4 que je vous ai citées, qui ont décidé de rentrer dans la Russie et la Russie l'a accepté », ça se négocie pas. On ne négocie pas le vote de plusieurs millions de personnes qui ont décidé de continuer à parler le russe et à rester dans la Fédération de Russie. Bon. Et les autres, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, ça s'est arrêté assez vite, puisque la position ukrainienne, qui est en gros la position de l'OTAN, c'est on fait un cessez-le-feu, on arrête sur la ligne de front actuelle. Ce qu'effectivement, les Russes n'accepteront pas, puisque la ligne de front actuelle, à part dans le Lugansk, où pratiquement tout le Lugansk est passé sous le contrôle de l'armée russe, il y a encore un petit bout du Donbass et un petit bout des 2 autres provinces où il y a encore des troupes ukrainiennes. Donc c'était très facile pour les Ukrainiens de dire « Ah, on s'arrête sur la ligne de front actuelle », c'est-à-dire on mange un morceau, j'interprète ça, on prend un morceau du territoire qui est désormais russe. Évidemment, les Russes ne vont pas accepter ça. Bon. Et donc ça s'est arrêté assez vite, chacun a exprimé ses positions, elles sont très très éloignées l'une de l'autre, et ça a beaucoup embarrassé la Maison-Blanche. Ça a beaucoup embarrassé la Maison-Blanche parce que là, malgré la pression de M. Rubio, donc pour faire partir Zelensky, arrêter la comédie de Zelensky, la négociation ne pouvait pas s'entamer dans la mesure où il était très clair que la position de la Russie ne bougeait pas et qu'elle était solide et que la position ukrainienne n'était pas très solide et qu'elle avait juste le soutien de l'OTAN et des États-Unis, mais que ça ne suffisait pas. Et donc là, il y a eu un moment de flottement. Il y a eu un moment de flottement qui s'est transformé en un coup de téléphone long entre le président Trump et le président Poutine. Ça, c'était donc hier. Alors pourquoi repasser au niveau des deux présidents ? Parce qu'effectivement, au niveau de la négociation entre les parties au conflit, encore que ce soit faux, l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine qui mène la guerre, c'est l'OTAN. Enfin, bon, admettons. Il fallait que le président, surtout Trump, était soucieux de dire « Moi, je veux que ça aille vite, je veux que mon nom soit associé à la paix en Ukraine, et donc il faut que je fasse quelque chose. » Alors, le quelque chose a été fait. Donc, c'est un long entretien qui a eu lieu hier par téléphone, 2 heures, paraît-il, direct. Alors, vous savez qu'il existe depuis l'affaire des fusées à Cuba, donc depuis 1962, une ligne rouge entre le Kremlin et la Maison-Blanche, et que c'est par cette ligne rouge que ce genre d'échange téléphonique... Ligne rouge, ça veut dire une ligne totalement sécurisée, dont les techniciens, à la fois états-uniens et russes, ont la totale maîtrise. Donc, on ne dit, les deux chefs d'État ne disent à la sortie de cet échange que ce qu'ils veulent bien dire, personne ne peut dire, en fait, ils ont dit autre chose. Je rappelle ces conditions techniques, c'est très très important. Donc, on est sorti des deux côtés avec la satisfaction de dire, on a parlé assez longuement, on n'a pas parlé 5 minutes comme au Vatican, on a parlé longuement, et puis il faut continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échéances, on parle de mémorandum qui donnerait un en gros, la liste des points sur lesquels il pourrait y avoir un traité de paix, mais ce n'est pas un traité de paix, voilà les points sur lesquels il faut qu'on avance pour qu'il y ait un traité de paix. Il pourrait y avoir, chemin faisant, un arrêt des combats, si on se mettait d'accord sur le respect de l'arrêt des combats par l'Ukraine, qui ne les respecte jamais. Voilà, toute une série de points. Donc, en fait, la Russie n'a absolument pas bougé de ses positions de fond. Elle a toujours insisté, et ça a été redit par Poutine à la sortie, sur sa position consistant à dire nous avons une volonté d'arrêter, à condition que ce soit un accord qui règle la question ukrainienne pour 10, 20, 50 ou 100 ans. Pas pour juste arrêter les combats et les reprendre dans 6 mois. Alors, que peut dire la partie états-unienne là-dessus ? Ben, pas grand-chose, en fait. C'est pas grand-chose. Et donc, on se satisfait de dire, ils se sont parlé. Alors, c'est un peu, ça devient miraculeux. Ils se parlent. On dirait, je viens, un couple qui s'est fâché. Vous savez, dans les procédures de divorce, il y a une procédure de conciliation. Hein. Bon, ils se sont parlé. Bon, et puis voilà, le divorce continue. Alors, il n'y aura pas divorce. Il y aura simplement, je pense, une adaptation de la position trumpienne qui est dans l'urgence, je veux signer tout de suite. Ah, au début, il a dit, la paix sera faite dans 24 heures. Maintenant, il ne le dit plus. Mais c'est toujours le même système. Et puis je veux que ce soit moi qui arrive, et puis que ça aille vite et qu'on ne perde pas de temps, etc. Bon. Et évidemment, ça n'ira pas vite et on ne perd. Alors, on peut effectivement regretter que les combats se poursuivent, mais c'est parce que, de toute façon, il n'y a pas les conditions pour arriver à un accord. Il n'y a d'abord pas les conditions du côté ukrainien, parce que la délégation ukrainienne est venue à Istanbul, elle a été poussée dans le dos. C'est-à-dire qu'elle était encore à Kiev quand Marco Rubio est venu dire à Zelensky « Non, il faut commencer la négociation, envoie-les. » Alors, il y a 2 heures d'avion, c'est pas grave, mais ils sont arrivés, la négociation a retardé de 24 heures. Alors, si c'est chaque fois comme ça, vous avez un calendrier de négociation, les gens viennent ou ils viennent pas, ils sont de mauvaise humeur, ils ont mal dormi, etc. C'est pas possible, c'est une farce sinistre. Alors, moi, je regrette, je dis farce parce que je regrette que nos médias nous alimentent d'informations de ce piètre niveau. C'est pas intéressant. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? En quoi la question a avancé ? En quoi la question de la paix en Ukraine a avancé ? Ben, en rien du tout. Simplement, il y a eu des allées-venues. Trump a repris le jeu en disant « ça va pas assez vite, je veux que mon nom entre dans l'histoire comme celui qui que ». Bon, on verra bien, on verra bien. Mais c'est pas demain matin. C'est pas demain matin. Et en plus, tu dois bien comprendre, ça commence à se dire un peu, même en Europe, tu dois bien te rendre compte que sur le terrain, tes amis ukrainiens ne sont pas en position très très forte. Et il faut savoir que sur le terrain, j'ajoute à ça, ce qui donne un éclairage supplémentaire, l'armée russe est en train d'avancer de telle façon qu'elle est en train de s'approprier progressivement 2 régions supplémentaires. La région de Soumy et la région de Dniepropetrovsk. Alors, c'est pas parce qu'ils ont décidé, c'est pas une lubie de la diplomatie russe. Il se trouve que ces 2 régions-là, donc la région de Soumy, qui est donc un peu à l'est de Kharkov, et la région de Dniepropetrovsk, qui est au nord de Zaporoïe, sont 2 régions qui font partie des régions russophones depuis la très longue histoire. Donc c'est là où, s'il y avait demain un référendum de la population dans ces 2 régions-là voteraient pour leur attachement à la Russie, il n'y a aucun doute. Bon. Mais en attendant que ça ait lieu, les troupes russes sont en train d'avancer là. Et comme l'armée ukrainienne est dans un état de délabrement avancé, elle n'arrive pas à s'y opposer. Voilà la situation telle qu'elle est. Alors on en reparlera, mais c'est intéressant de voir qu'il a fallu que Trump sauve les apparences en disant la négociation va continuer. Alors on annonce qu'effectivement, elle va reprendre avec les 2 formations qui ont été désignées des 2 côtés. Mais je pense que du côté des États-Unis, on a commencé à se rendre compte que ce n'était pas une affaire qui se bouclait dans la semaine. Bon. Donc on a commencé à prendre le chemin de la raison. Alors c'est un peu gênant pour la propagande trumpienne, l'homme qui règle tout par un coup de baguette miracle quand il arrive quelque part. Mais au fond, s'il veut vraiment, c'est là que sa sincérité peut être mise en doute. S'il veut vraiment que ce conflit ait une solution, il sera obligé d'admettre qu'il faut du temps pour arriver à cette solution-là. Alors ce qui le pousse, alors deuxième aspect, alors il y a cette espèce d'affichage, je suis le maître du monde et je dis qu'il faut aboutir, on aboutit tout de suite, parce que j'ai dit, ça c'était, je rappelle, comme disait Louis XIV, le roi dit nous voulons, hein. Bon, c'est pas tout à fait ça. En fait, le deuxième aspect sur lequel on ne parle plus ou on ne parle presque plus, c'est le fait que selon la fin des combats, selon le lieu où s'arrêtera la guerre, donc l'avancée de la Russie vers l'ouest et donc l'intégration des provinces russophones dans la Fédération de Russie, les richesses minières que M. Trump a prises dans le fameux accord sur les terres rares ne seront peut-être pas sur le territoire ukrainien. Et d'ailleurs, il le sait très bien. il le sait très bien, parce que ces richesses minières, elles étaient identifiées, les cartes géologiques en particulier, le service géologique des États-Unis est un organisme qui fait un travail remarquable et qui connaît très très bien le sous-sol dans le monde entier, mais il savait très bien que dans la partie ouest de l'Ukraine, il n'y a pas grand-chose à tirer du sol. Et donc, en pratique, plus l'armée russe et plus la Russie s'agrandit, moins il reste de richesses minières sur lesquelles les États-Unis pourront mettre la main. Alors pourquoi ? Parce que je rappelle que dans le fameux accord donc sur les terres rares, il est dit très clairement que l'Ukraine reste propriétaire du sous-sol, mais c'est les États-Unis qui exploitent. C'est-à-dire, ah oui, c'est très bien, vous voyez, là, il y a une mine de fer, mais c'est une société des États-Unis qui va faire les trous, c'est une société des États-Unis qui va vendre le minerai de fer, et il y aura une partie de la recette pour l'Ukraine. Mais c'est les investisseurs et les multinationales américaines qui feront le travail. Donc, Trump, enfin, aux alentours, on peut se dire, qu'est-ce qui va nous rester ? Ben, peut-être pas grand-chose. D'où aussi une deuxième urgence sur laquelle plus personne n'insiste. Mais au fond, puisque c'était ça qui motivait Trump, c'est-à-dire de se payer sur les richesses minières ukrainiennes, il doit voir, on doit lui dire que les comptes font qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à exploiter. Et on y ajouterait que les Ukrainiens et les Russes qui connaissaient parfaitement le sous-sol de leur pays, s'ils n'avaient pas exploité ces zones minières potentielles, c'est qu'elles n'étaient pas les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'il ne reste probablement plus aujourd'hui qu'à exploiter des petites mines d'un intérêt très très secondaire. Voilà le cadeau que M. Trump veut faire aux sociétés des États-Unis. C'est peut-être pas un très très gros cadeau. Mais je voulais insister sur cette dimension-là. C'est-à-dire que son espèce de frénésie à dire il faut aller vite, ça veut dire il doit regarder la carte et dire ah ben ça c'est plus possible, là le gaz on l'aura pas, là le pétrole on l'aura pas, là le fer on l'aura pas, là le manganèse on l'aura pas, que va-t-il me rester ? Et j'aurais payé tout ça pour rien. Bon, on connaît le raisonnement. Voilà pour cette négociation qui se passe, enfin qui va reprendre donc à la suite de cette conversation entre les deux personnages qui a eu lieu hier après-midi. Et puis, bien entendu, je voulais vous parler de l'autre aspect de l'activité de M. Trump, qui est que M. Trump s'est rendu, ça vous l'avez tous su, il s'est rendu au Moyen-Orient. Alors très précisément, alors, le Moyen-Orient, les limites sont discutable. Enfin, il s'est rendu chez les monarques de la péninsule arabique, pas chez les autres. Hein. Il n'est pas allé en Égypte, il n'est pas allé en Jordanie. Non, il est allé à un endroit très particulier. Il est allé. Alors, c'est presque, j'allais dire, c'est un renifleur, M. Trump. Vous savez, je me souviens de l'épisode des avions renifleurs de Giscard d'Estaing qui s'était laissé prendre par une espèce d'escroc qui lui avait fait croire qu'il avait un dispositif qu'il mettait sur des avions où, en survolant un territoire, on arrivait à dire il y a du pétrole dessous. Ce que tous les géologues considéraient comme une énorme farce. Mais Giscard, tout polytechnicien qu'il fût, y avait cru. Bon, alors là, M. Trump, ce n'est pas les avions. Lui, il a le sens du dollar. C'est-à-dire, quand il y a des dollars à prendre, il est là, il est fébrile, il dit je vais prendre ça, etc. Et donc, il s'est dit s'il y a des dollars à prendre, il faut que j'aille les prendre là où ils sont. Où sont les dollars ? Alors, pas en Égypte, effectivement, qui est plutôt un pays endetté. Et donc, il est allé les prendre là où il y en a. Alors, là où il y en a, c'est très simple, ça s'appelle l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Et subsidiairement, d'autres, je pense Oman un petit peu. Il n'a même pas parlé du Koweït, il n'y est pas allé. Il est allé à l'endroit où il y a le plus de dollars. Alors, ce serait très intéressant parce que c'est comme un chien qui cherche un chien de chasse. À un moment donné, il bouge la queue. On dit, là, il a trouvé, il y a du gibier pas loin. Trump, c'est exactement ça. Alors, je ne dis pas qu'il bouge la queue, je ne me permettrai pas. Mais voilà, Trump dit, hop là, là, il y a du dollar, je vais y aller parce qu'il y a des dollars à ramasser. Et il y va. Alors, je note quand même, c'est assez intéressant, c'est une première, que la Maison-Blanche, en date du 13 mai, s'est fendue d'un texte. Alors, c'est la première fois que la Maison-Blanche se fend d'un texte programme en disant « Le président va au Moyen-Orient avec une série d'objectifs ». Alors là, ils le font quand même un peu progresser parce qu'ils se sont aperçus, je pense, au bout de 4 mois maintenant, qu'il allait, il venait, il disait une chose, il disait son contraire, il bafouillait, il disait non, mais j'étais en colère, j'ai pas voulu dire ça, etc. Alors, j'ai l'impression que les services de la Maison-Blanche ont essayé quand même de le cadrer un peu mieux. Et donc, il est sorti sur le site de la Maison-Blanche un texte expliquant le pourquoi et le comment de la visite du président. Alors ça, c'est une nouveauté et je vais vous en faire profiter au moins en partie. Alors, je vous lis par quoi ça commence. Il y a exactement 8 ans, ce mois-ci, je me tenais dans cette même pièce, donc ça se passe à Riyad, et j'attendais avec impatience un avenir dans lequel les nations de cette région chasseraient les forces du terrorisme et de l'extrémisme et prendraient votre place parmi les nations les plus fières, les plus prospères et les plus prospères du monde en tant que dirigeants d'un Moyen-Orient moderne et en plein essor. Et il ajoute. Sous nos yeux, une nouvelle génération de dirigeants transcende les anciens conflits et les divisions fatiguées du passé et forge un avenir où le Moyen-Orient est défini par le commerce et non par le chaos. Et elle exporte de la technologie et non du terrorisme. Et des gens de nations, de religions et de croyances différentes construisent des villes ensemble et ne se bombardent pas les uns les autres pour se faire disparaître. Alors regardez, on est à Riyad, on est, je dis ça, estimation grossière, à 1000 km de Gaza, à peu près, ou un peu moins, et monsieur la Maison-Blanche, monsieur Trump, donc, se permet de dire, les combats sont inutiles, les affaires avant tout, et fait comme s'il n'existait pas de questions palestiniennes. C'est exactement d'ailleurs le discours que les dirigeants de ces pays-là attendent. Je continue. Cette grande transformation n'est pas venue des interventionnistes occidentaux, vous donnant des conférences sur la façon de vivre ou de gérer vos propres affaires. Non, les merveilles étincelantes de Riyad et d'Abu Dhabi n'ont pas été créées par les soi-disant bâtisseurs de la nation, néoconservateurs ou organisations libérales à but non lucratif, comme ceux qui ont dépensé des milliards pour échouer à développer Kaboul et Bagdad dans d'autres villes. Au lieu de cela, la naissance d'un Moyen-Orient moderne a été provoquée par les peuples de la région eux-mêmes. Alors, là, alors retenez bien votre souffle, il ose dire à Riyad, qui est un pays non démocratique, où les gens ne votent pas, où il y a des traitements inhumains qui sont appliqués par les tribunaux, etc. Je rappelle la lapidation, le coupage de tête, etc., coupage de main pour les voleurs, tout ça. Il appelle ça... Donc le choix des peuples de la région d'Arabie Saoudite et de la péninsule arabique. Alors il faut oser le dire, mais quand on veut, j'allais dire, flatter ces monarques tout-puissants, on peut évidemment pas tenir un autre discours. C'est exactement ce qu'il est allé faire. Il est allé flatter les dirigeants des régimes les plus réactionnaires qui existent dans cette région du monde, et peut-être les plus réactionnaires du monde, simplement parce qu'ils ont des dollars. C'est là que je parle du chien qui remue la queue parce qu'il a senti qu'il y avait du dollar. Et effectivement, alors ça a été moins dit. On a dit il est en visite, c'est grandiose, etc. Tout se passe bien, on se réconcilie avec tous ces gens, on n'était jamais fâchés. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait derrière, effectivement, des dollars en question. Des dollars en question. Et pourquoi il y avait des dollars en question? Ça m'amène à revenir sur une vieille histoire qui est l'histoire des pétrodollars. Alors vous avez peut-être entendu parler, c'est une vieille expression, qu'est-ce que c'est que le pétrodollar ? Tout ça nous ramène à la question des chocs pétroliers de la fin des années 70. Le premier choc, vous savez, 1973, le deuxième choc, 1979. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du monde, de l'histoire du monde ? On est face à un certain nombre de pays qui dominent le marché mondial de l'exportation du pétrole, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ces pays-là, se disent qu'ils pourraient quand même gagner un peu plus pour l'exportation du pétrole, puisque de toute façon, ils tiennent le monde entier quasiment sous leur dépendance, à part certains pays qui ont des productions propres. Mais ces pays-là, parmi lesquels on trouve déjà le Venezuela, hein, ce n'est pas une surprise à ce moment-là, les pays pétroliers du Golfe et donc d'Arabie, ils disent on va augmenter les prix. On va augmenter les prix parce qu'après tout, c'est normal. Le tiers-monde s'émancipe. Il en a assez que ses matières premières soient pillées par les occidentaux et les dominants. Et donc, on augmente les prix. Alors, ce mouvement-là, en fait, il est accepté, il est accepté par les États-Unis, par la voix du certain Henry Kissinger, qui dit « si on s'oppose, c'est pas bon ». Si on s'oppose, c'est pas bon. Finalement, les régimes qui font ça, et c'était le cas du régime vénézuélien à l'époque, qui est très différent de ce qu'il est aujourd'hui, si on s'oppose à ces gens-là, ça va mal se passer. Donc on va leur dire « ok ». C'est bien, et puis après tout, ça va affaiblir des concurrents qui n'ont pas de pétrole, c'est pas mal. On pense à la Chine déjà. Hein. Et puis, enfin, on va leur dire simplement, vos factures, ça reste des dollars. Et donc, à partir de ce moment-là, il va arriver 4 ou 5 fois plus de dollars qu'il en arrivait dans les caisses d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, etc., qu'il en arrivait avant. Mais c'était des dollars. Et l'important, c'était que les dollars soient imprimés toujours aux États-Unis. Le pétrodollar, ce n'est pas un dollar qui était imprimé à Riyad ou à Jeddah ou à La Mecque. Non, non, c'était des vrais dollars avec les billets verts que vous connaissez, imprimés aux États-Unis. Et donc, dès l'instant où on avait la maîtrise monétaire du principal courant de trafic, la principale matière qui se vend et s'achète dans le monde, effectivement, l'économie états-unienne, qui est fondée sur la domination du dollar, n'était pas menacée du tout. Ça, c'est le point de départ, je le rappelle, parce qu'on a oublié ce que c'était que ces pétroles. Ils se sont retrouvés avec des masses de dollars. Alors, ces masses de dollars, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on achète d'abord beaucoup de matériel à l'étranger et surtout aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, quasiment tous les ans, l'Arabie Saoudite va acheter pour 50 ou 100 milliards de dollars de matériel militaire aux États-Unis. Alors, à quoi ils servent ? On ne sait pas trop, puisqu'au fond, les capacités militaires de l'Arabie Saoudite sont assez réduites. Ils n'ont pas montré sur le terrain des capacités remarquables du point de vue militaire, mais ils achètent. Les Émirats achètent aussi. Donc, en fait, c'est déjà des dollars qui viennent pour le pétrole et repartent directement chez Boeing, chez Lockheed, etc. Donc, ce n'est pas perdu. La machine de guerre américaine n'est pas frustrée du tout. Évidemment, ces braves gens... Je mets ça entre d'énormes guillemets, ces braves gens ne vont pas acheter des avions de chasse russes ou chinois. Donc tout ça reste en famille, on reste dans la zone dollar, on circule, les dollars vont, viennent, passent par le pétrole et puis reviennent directement dans la caisse des États-Unis. Avec en plus des intermédiaires bancaires qui sont les banques des États-Unis, bon, et le FMI qui regarde un peu ça pour surveiller tous ces mouvements de fonds. Et donc ce que M. Trump est allé faire là-bas, c'est qu'il a dit, vous savez, moi, je commence à avoir des difficultés. Effectivement, il n'a pas insisté sur le niveau d'endettement des États-Unis, mais il se rend bien compte que ça atteint un niveau très, très élevé, historiquement. Et donc, il est allé leur dire, investissez chez moi, renvoyez-moi vos pétrodollars. Et bien entendu, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, à telle enseigne que les Saoudiens vont investir aux États-Unis 1000 milliards de dollars. Alors ils vont racheter des usines en faillite, ils vont racheter ce qu'on appelle la Rust Belt, vous savez, la zone où il n'y a que des usines à désaffecter et tout. Les aciéries des États-Unis, il n'y en a presque plus, elles sont dans un état déplorable. Donc il va y avoir des dollars venus d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour faire repartir des usines aux États-Unis qui sont endormies, qui sont arrêtées. Alors, ça prendra le temps que ça voudra. En plus, au passage, ils achèteront, bien entendu, du matériel pour refaire démarrer ces usines. Hein, on va faire travailler des sous-traitants états-uniens, etc. Donc, en fait, M. Trump est venu ramasser des dollars qui étaient sur la table de jeu. On est dans une espèce de gigantesque poker du dollar au niveau mondial. Mais il a dit, puisqu'ils en ont, et que finalement... C'est beau leur vendre, lui, des centaines de milliards d'avions tous les ans, ça ne suffit pas. Donc je vais prendre... Là, on a changé d'échelle. Hein. L'Arabie Saoudite va mettre 1000 milliards de dollars sur la table. Et les Émirats Arabes Unis, je crois, 400 ou 500 milliards de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est autant qui vont permettre de refaire démarrer des affaires des amis de M. Trump. Parce que, bien entendu, il y aura les gros sujets. Ils vont réouvrir telle installation pour produire des voitures, des ordinateurs, etc. Et puis, au passage, bien entendu, ce flux de dollars va aussi faire plaisir à certains amis. Là-dedans, le business de la famille Trump n'est pas oublié, puisque un des fils de Donald Trump était dans la délégation et lui est allé vendre à ces messieurs, donc ces émirs, riches et non démocrates, il est allé vendre des projets de stations touristiques de luxe pour leurs familles, leurs amis, etc. Alors effectivement, soleil permanent, climat extraordinaire. Et je peux vous mettre là tout ce que vous voulez, ce qu'il faut, les spas, les massages, etc. Dans une zone très très protégée pour vos amis de la cour, les émirs, les sous-émirs, les sous-sous-émirs, etc. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre la façon dont fonctionne le système Trump. C'est-à-dire, d'une part, moi, en tant que président, je ramasse les dollars qui sont à moi, et ceux qui ont des dollars, ce sont mes dépendants. Et puis, la famille ou les amis viennent là, et puis au passage, ils font leurs petites affaires. Petites affaires qui peuvent être grosses à l'échelle, mais ça, c'est, à la limite, c'est la monnaie de ma pièce. Vous savez, je passe beaucoup de mon temps pour occuper les intérêts des États-Unis. Hein. Donc, c'est normal que je me rétribue un petit peu. Moi, mon fils, ma fille, etc. Une toute petite goutte, c'est rien du tout. Hein. Mais la vie est comme ça, vous savez comment je fonctionne, vous me connaissez. Enfin, on ne le connaissait pas, aussi, on commence à le connaître très très bien. Voilà ce que je voulais préciser sur la réalité de ces rapports donc, entre le président, enfin entre les États-Unis et les Émirats, c'est-à-dire qu'on a affaire à des... Alors, politiquement, il y a un bilan très très cruel à faire. C'est-à-dire, politiquement, M. Trump s'appuie sur les puissances moyen-orientales les plus rétrogrades, en termes de mœurs, de tolérance, de droits de l'homme, etc., parce qu'ils sont dans les dollars, parce qu'ils tiennent l'économie du pétrole entre leurs mains, et les entretient, les encourage à poursuivre tels qu'ils sont, puisque vous êtes très bien, je vous aiderai militairement et aidez-vous vous-même avec le matériel que je vais vous vendre, vous êtes les vrais amis. C'est-à-dire que on a cette péninsule arabique est en train de devenir l'espèce de base mondiale de la réaction internationale, c'est-à-dire le camp noir. Et tout ça se passe à quelques kilomètres de Gaza, dont personne ne parle, il n'a pas été évoqué du tout, ni dans le texte de la Maison-Blanche que je vous signalais, puisque pour la Maison-Blanche, le Moyen-Orient, c'est un endroit très très bien, très très sympathique. Il dit, alors, c'est Trump lui-même, comme je l'ai montré à maintes reprises, je suis prêt à mettre fin au conflit passé et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable, même si nos différences peuvent être très profondes. Alors, j'espère que c'est tombé dans l'oreille du sourd qu'est Netanyahou. Écoute, Netanyahou, hein, je suis prêt à mettre fin au conflit passé et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Alors, monsieur Netanyahou, eh bien non, monsieur Netanyahou a ou pas entendu ou ce discours ne lui était pas destiné. Hein. Il a fait l'innocent, si on peut appeler ça un innocent. Et il ajoute, ma préférence ira toujours à la paix et au partenariat chaque fois que ces résultats peuvent être atteints. Toujours. Voilà. Bon, donc, voilà. C'est tout à fait clair. Donc, c'est un monsieur qui est une espèce de borgne politique, c'est-à-dire, il peut être, je vous dis, à 1000 km de Gaza, il a probablement même survolé peut-être Israël pour aller là-bas avec son avion, hein, et il fait comme s'il ne se passait rien en Palestine. C'est ça la réalité. Là où ce qui l'intéresse, c'est les dollars. Alors effectivement, prendre des dollars aux Palestiniens, c'est essayer... Il n'y en a pas. Et donc, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a rien à prendre. Si ce n'est... Alors, un mot sur Gaza, puis on va l'aborder d'une autre façon. Si ce n'est faire de Gaza... Alors, ce que je vois venir, j'explique en gros comment je vois venir la situation sur Gaza. C'est-à-dire, pratiquement, il n'y a plus une seule maison qui tient debout sur toute la bande de Gaza. Plus aucune construction. Il n'y a plus que des gens sous détente. Ce qui est en train de se passer, c'est l'arrivée progressive des Israéliens pour se donner des zones où il n'y aura même plus les tentes. Hein, on va regrouper les tentes sur une fraction du territoire de la bande de Gaza, peut-être sur un quart ou un tiers de la bande. Et tout le reste va devenir une espèce de zone. Ça, j'appelle ça la nouvelle Cisjordanie. Vous voyez bien le processus. C'est-à-dire, Gaza en tant que... prison close où les Palestiniens étaient entre eux, hein, c'est plus possible. Donc il faut en faire une nouvelle Cisjordanie avec ce qui est la promesse qui est faite indirectement, c'est-à-dire la Cisjordanie, ben, il se passera à Gaza ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. C'est-à-dire on mettra un certain nombre de colons israéliens dans les zones où il n'y aura plus les tentes des Palestiniens, et puis petit à petit, ces colons israéliens, lourdement armés, iront pousser les gens qui ont des tentes vers la mer ou vers le cimetière. Hein. Et petit à petit, on Gaza sera reconquis de l'intérieur. Il n'y aura plus donc cette particularité de cette bande de Gaza fermée sur elle-même où les Palestiniens, bon an mal an, vivaient entre eux. C'est terminé. Enfin, c'est ça le plan. Alors, il n'est pas dévoilé comme ça, mais je vous l'explique, c'est très très simple. Alors, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, c'est exactement ça qui est prévu pour se passer sur le territoire de Gaza. C'est-à-dire, il y aura deux, trois zones de nouvelles colonies, et les colons auront carte blanche pour éliminer l'un après l'autre, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, tous les Palestiniens qui s'opposeront à leurs avancées. Le schéma cisjordanien, on le connaît, on le voit fonctionner, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est par rapport à ça que j'allais donner la parole à Roselyne, parce que j'avais prévu la lecture d'un texte qui est un témoignage, c'est-à-dire que, et je le dis, alors, j'ai pas le sourire quand je dis ça, à part ce que je viens de vous dire, il est impossible aujourd'hui de s'insurger contre ce qui se passe, enfin s'insurger, si, alors on manifeste dans les rues contre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine, mais en fait, ça ne suffit pas. On a une espèce de sentiment d'impuissance, mais arrêtez, c'est épouvantable ce que vous faites, c'est épouvantable ce qui se passe. Et en fait, l'impression que ça n'avance pas, puisqu'au contraire, c'est même la réaction, c'est Netanyahou, c'est les sionistes qui avancent. Et donc, par rapport à ça, pleurer, s'insurger, ça sert sans servir. Et c'est pour ça que j'ai préféré... Donc vous donnez, enfin c'est Roselyne qui va le faire, donner lecture d'un texte, parce que je pense qu'il faut qu'aussi nous mettions de l'émotion dans ces raisonnements politiques. C'est-à-dire, c'est insupportable et il faut que tout le monde se rende compte que c'est insupportable. Nous ne sommes pas assez nombreux à se rendre compte que c'est insupportable, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on nous cache la réalité de ce qui s'y passe. Voilà. Roselyne, c'est à toi.
Chaque matin, depuis l'intensification récente de l'offensive militaire à Gaza, on entend à la radio le nombre de morts, suivi de la formule « en majorité des enfants ». Texte d'Abou Amir du 17 mai. Au cœur de Gaza, dans ce coin abandonné par l'histoire, se dévoilent les plus douloureux chapitres de la souffrance humaine de notre époque. Ce n'est pas seulement une question de nombre de morts ou d'ampleur de destruction, mais de ce crime silencieux qui ne figure pas dans les bulletins d'information comme il le devrait. L'orphelinat des enfants. La plus grande amputation collective de l'enfance dans l'ère moderne. Les statistiques confirment que plus de 39 384 enfants ont perdu l'un ou les deux parents depuis le début de la dernière guerre israélienne. Un chiffre que ni la raison ni la conscience humaine ne peuvent concevoir. Des enfants dont certains n'ont pas encore atteint l'âge de compter sur les doigts d'une main, se sont réveillés un matin en pleurs, sans plus entendre personne les appeler par leur prénom. Plus de mère pour coiffer leurs cheveux, plus de père pour soutenir leur dos. Ils couraient après les papillons, les voilà maintenant à courir derrière les ambulances. Ils apprennent les noms des morts à la place des lettres, dessinent des cimetières au lieu de fleurs. À Gaza, aujourd'hui, l'enfance est amputée sans anesthésie. La sécurité est arrachée à des âmes qui n'ont jamais connu la vie. Elles se sont seulement trouvées sur cette terre pour y être lentement égorgées, sans que personne ne leur demande « Est-ce que tu vas bien ?» Dans les centres d'hébergement saturés à l'étouffement, ces enfants vivent sans étreinte, sans chaleur d'un sein, sans jouets ni histoire du soir. Ils s'endorment au bruit des bombardements et se réveillent à l'odeur des cadavres et aux cris des mères désespérées. Dans ces camps, on voit un enfant fixer le plafond de la tente d'un regard éteint. On lui demande « Qu'as-tu ?» Il répond « Je rêvais de ma maman, puis je me suis réveillée. » Les mots se figent, car le rêve est devenu plus précieux que la réalité. Les mères de Gaza n'apparaissent plus dans des photos suspendues ou des noms gravés sur les pierres. N'apparaissent plus que dans des photos suspendues ou des noms gravés sur des pierres. Des histoires qui feraient pleurer même la pierre. Une fillette de 6 ans serrant la main morte de sa mère pendant des jours. Ou cet enfant qui ne cesse de demander « Pourquoi maman ne se réveille-t-elle pas ? Pourquoi est-elle froide ? » Combien d'enfants le monde doit-il encore voir pour croire qu'il y a un massacre? Combien de cris faut-il pour attirer son attention? Nous écrivons et nous continuons à écrire chaque jour sur Gaza, sur les massacres, sur la mort sous les décombres, sur la faim, sur les convois humanitaires bloqués, sur les cris étouffés dans les gorges des petits, sur les yeux vieillissants de peur, sur l'enfance pendue sans corde. Mais quelqu'un nous a-t-il écouté? Le monde s'est-il levé? Ou bien l'humanité est-elle devenue un luxe dans l'ère du silence mondial? Plus de 17 000 enfants vivent aujourd'hui à Gaza sans accompagnant. Selon les rapports des Nations Unies, un chiffre qui reflète l'effondrement complet du système international de protection. Ces enfants ne souffrent pas seulement d'un orphelinat collectif, affectif, mais aussi matériel, social et psychologique. Qui soignera leurs blessures? Qui caressera leurs âmes brisées? Qui leur rendra une étreinte dont ils ignoraient même le besoin? À Gaza, l'enfance est enterrée vivante. La vie est arrachée des yeux qui brillaient encore. Et des histoires se terminent avant même de commencer. Et face à tout cela, les gouvernants du monde, occidentaux comme arabes, adoptent une posture de spectateurs silencieux, de complices muets, ou de diplomates froids et justificateurs. Personne ne se soucie, le monde voit et entend mais ne parle pas. Ou plutôt, il parle dans une langue qui ne sauve aucun enfant, n'envoie aucune cargaison de farine, n'ouvre aucun couloir humanitaire. Certains brandissent des slogans sur les droits humains lors des conférences, puis serrent la main du bourreau, signent des contrats avec lui et lui envoient les armes pour achever la mission. Quant aux régimes arabes, ils pratiquent un silence amer, craintif, humilié. Certains parient sur le temps. Mais le temps n'a plus aucun sens à Gaza. Chaque heure de retard signifie un nouveau cadavre, un nouvel orphelin et une nouvelle histoire à ajouter à la longue liste de la honte. Dans des camps assiégés, on voit des enfants se partager une seule couverture, échanger des photos de leurs proches, chacun racontant comment est mort celui qu'il aimait. L'autre écoute sans verser une larme, car pleurer est un luxe qu'ils n'ont plus après tout cela. Imagine être âgé de 6 ans. Comprendre la mort, vivre le deuil, t'habituer au son des avions et distinguer les types de bombes à leur bruit. Imagine que tout cela fasse désormais partie de l'enfance à Gaza. Une enfance qui ne ressemble à aucune autre. Et quand elle émerge des décombres, elle ne trouve qu'un monde aveugle et sourd comme si le drame ne s'était jamais produit. Nous écrivons parce que nous n'avons rien d'autre. Nous écrivons parce que le silence est un crime. Et se taire face à ce crime, c'est y participer. Nous écrivons pour que peut-être un mot compense une étreinte, console une veuve ou caresse la tête d'un orphelin. Nous écrivons même si écrire n'arrête pas un missile, ne sauve pas une maison de l'effondrement. Cela préserve les restes de notre dignité en tant qu'être humain défendant encore le droit à la vie. Les enfants de Gaza n'ont pas besoin de pitié ni de discours de profonde inquiétude. Ils ont besoin que le monde leur rende le droit à la sécurité, à la famille, à la chaleur, au simple fait d'être des enfants. Mais il semble que l'humanité soit morte là-bas, sans avoir encore été enterrée. Et nous vivons apparemment dans une époque où la conscience mondiale s'érode comme les murs des maisons de Gaza et où l'enfance est écrasée comme les os sous les gravats. Et si quelqu'un lit cela un jour, qu'il sache que des enfants, ici, à Gaza, sont devenus orphelins, non seulement parce que la guerre est cruelle, mais parce que le monde entier a choisi de ne pas arrêter cette cruauté. Oui, à Gaza, une génération entière est massacrée, et le monde, tout le monde, est témoin du crime et se tait.
Merci beaucoup, c'est poignant et tu as bien fait de le lire. Parce que quoi dire de plus, quoi. Ça suffit, crier, ça, arrêter, ouvrez les yeux, mais ils les ouvrent, ils savent, mais ils trichent. Alors à propos de tortionnaires et de tueurs, il faut savoir, je dis maintenant, que Ariad était aussi présent parce qu'invité, le nouveau président intérimaire ou transitoire, je ne sais pas quelle est l'expression utilisée officielle, M. Al-Jolani, djihadiste poursuivi. M. Al-Jolani est venu à serrer la main de M. Trump, qui a annoncé qu'il allait faciliter la vie de la Syrie, qui a beaucoup souffert. M. Trump ne dit que ça, la Syrie a beaucoup souffert. Comme c'est gentil, monsieur. D'habitude, M. Trump, quand vous dites des choses comme ça, vous dites c'est Biden qui les a fait souffrir, c'est Obama qui les a fait souffrir, c'est Netanyahou qui les a fait souffrir. Non, là, c'est... La souris, elle a beaucoup souffert, on ne sait pas pourquoi, une espèce de calamité qui est tombée des cieux. C'est très facile, donc, parce qu'il annonce quand même que M. Al-Jolani va être aidé, que ses dettes vont être épongées par les amis du Qatar, de l'Arabie Saoudite, etc., et que les sanctions vont être levées. C'est-à-dire que l'étranglement de la République arabe syrienne qui a été organisé depuis pratiquement 20 ans par les États-Unis, M. Trump fait comme s'il n'était pas au courant. Il dit « Oh, la Syrie a beaucoup souffert !» Et c'est tout. Alors, il devrait savoir pourquoi. D'ailleurs, s'il se renseignait, il saurait très bien quoi. La Syrie a beaucoup souffert parce que dès pratiquement l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, après la mort de son père, il a été décidé qu'il fallait détruire la Syrie. C'est tout. Bon. Ça a mis longtemps, les Syriens ont beaucoup souffert, mais ça y est, c'est réussi. Et donc, un des outils de cette réussite, c'est M. Al-Jolani, donc djihadiste même pas repenti, qui continue à appliquer les mêmes méthodes, a été donc intronisé, comme il l'avait été par M. Macron il y a 15 jours, a été intronisé par M. Trump, qui va dire « Vous allez avoir la vie facile, enfin !» Grâce à vous et grâce à moi, les Syriens vont pouvoir manger tous les jours à leur faim. On verra bien. Hein. Mais enfin, c'est ça qui s'annonce. Donc, il ne s'est rien passé. Une simple erreur des administrations démocrates ou républicaines. Mais tout ça est passé. Et puis voilà. Maintenant, comme on dit dans les opérettes, embrassons-nous, folle ville. Hein, c'est à peu près ça. Tout ça pour dire que M. Jolani donc, a été officialisé, introné comme le grand représentant, le grand dirigeant de la Syrie nouvelle. Et je voulais saisir cette occasion pour vous parler d'un de ses nouveaux alliés, de ses nouveaux amis. Il s'agit du président de la compagnie marseillaise d'affrètement, méridionale d'affrètement, CMA-CGM, que vous connaissez tous, puisqu'on voit le nom CMA-CGM sur beaucoup de maillots sportifs, y compris les maillots de l'Olympique de Marseille. Bon. Et désormais, tout le monde connaît le mot CMA-CGM. La CMA-CGM, donc je le rappelle, troisième transporteur mondial de containers, avec les bateaux et les containers qui vont avec, vient d'obtenir... De l'égorgeur M. Jolani, parce que M. Jolani, tout président qu'il est un égorgeur, et donc vient d'obtenir la concession du port de Latakié, qui est le principal port syrien sur la côte méditerranéenne. Donc la concession, ça veut dire entretenir, moderniser, équiper et gérer le trafic du port. Alors on peut imaginer, et c'est facile d'imaginer parce que je rappelle que M. Saadé a une famille d'origine syrienne. On le présente comme un Libanais. En fait, ses grands-parents étaient syriens. Bon. Mais ce qui veut dire que la CMA-CGM et le PDG de la CMA-CGM et les employés de la CMA-CGM vont contrôler le principal port de la Syrie et tout ce qui s'y passe. Et nous en dirons ce qu'ils voudront bien nous en dire. C'est-à-dire ce qu'il y aura dans les containers, que ce soit des armes pour tuer des citoyens syriens, que ce soit des fournitures militaires pour Israël qui occupe une partie de la Syrie, que ce soit des armes pour permettre à cette armée israélienne de continuer à bombarder le Liban et à détruire le Liban. Tout est possible, tout se fait sous le drapeau d'une compagnie française, une des plus réputées. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Et tout ça doit se faire avec, je pense, la grande satisfaction du palais de l'Élysée où on dit « Mais M. Saadé est un ami, c'est un des grands capitaines du capitalisme français et donc il a fait une très très belle affaire. » Oui, c'est une très très belle affaire. C'est le port de Latakié, c'est un endroit où on va pouvoir faire un cimetière des droits de l'homme. C'est ça que ça veut dire. Il s'y passera n'importe quoi dans les intérêts donc des djihadistes d'Israël, peut-être de la Turquie à un moindre degré, mais certainement au moins de ces deux-là, et donc les intérêts des États-Unis. Bravo, bravo, monsieur, bravo, monsieur Rodolphe Saadé. Vous n'avez pas perdu votre temps et vous savez les endroits où on peut gagner très vite des dollars et faire des affaires discrètement. Ce sera ça, votre travail à l'attaquer. C'est bien qu'on connaisse ça dans la France entière, à Marseille en particulier, où cette compagnie a son siège. Et puis, je voulais vous parler un peu plus en détail d'un de ces pays qui est plus petit que l'Arabie Saoudite, qu'on appelle les Émirats Arabes Unis. Alors, pourquoi en parler ? Parce que c'est la deuxième visite la plus importante qu'a faite Trump au Moyen-Orient. Il est allé donc à Abu Dhabi. Alors, pourquoi Abu Dhabi, d'abord ? Il faut préciser que quand on dit Émirats Arabes Unis, il s'agit d'une fédération d'Émirats. Donc les plus connus sont Abu Dhabi, Dubaï, il y a Fujairah, il y en a quelques autres, ils sont 7 au total autour de la table, mais en pratique, il y en a 2 qui comptent, il y a Dubaï et il y a Abu Dhabi. Alors Dubaï, parce que c'est le centre d'affaires que tout le monde a vu, avec tout son luxe, etc., et Abu Dhabi, parce que c'est là qu'il y a le pétrole. Donc l'argent, il est entre les mains de l'émir de Dubaï. Alors ça s'appelle, l'étiquette, c'est Émirats Arabes Unis. La principale raffinerie des Émirats, elle est à Abu Dhabi. Les principaux gisements de pétrole, ils sont là aussi. Et donc l'argent, il est chez l'émir d'Abu Dhabi, qui s'appelle monsieur, enfin le fils s'appelle monsieur Bin Zayed, MBZ on dit, chez les initiés. Bien. Pour situer la chose, qu'est-ce que c'est que cet émirat ? Cet émirat, c'est un endroit semi-désertique ou trois quarts désertique où il y a beaucoup d'argent qui coule, du pétrole, de l'argent qui tombe, du pétrole qui monte. Mais c'est un endroit où le souverain fait absolument ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'habitants dans les Émirats Arabes Unis, principalement à Dubaï, mais il y en a un peu partout, mais beaucoup à Dubaï. 10 millions. Sur ces 10 millions d'habitants, il y a 1 million de citoyens. Alors j'appelle ça citoyens, des gens qui sont vraiment de la nationalité émirati. Alors ils vont pas, ils s'expriment pas dans des élections puisqu'il n'y a pas d'élections, mais enfin il y a au moins des gens qui sont émiratis parce qu'ils sont nés là, ils sont sur place. Bon, donc il y a 10% des gens qui habitent sur ce territoire qui sont du pays. Ce qui veut dire que, outre le fait qu'ils ne votent pas, la liberté d'action de l'émir et de sa famille est totale, c'est-à-dire qu'il a des centaines de milliards dans sa poche, il en fait ce qu'il en veut, il n'a aucun contrôle sur rien. Il est contrôlé par rien du tout, par personne. Et donc c'est pour ça que Trump peut arriver et dire « Allez, passe-moi 400 milliards de dollars parce que j'en ai besoin, j'ai une période difficile », et l'autre ne peut que s'exécuter. De toute façon, ça ne le gêne pas, ça ne l'empêche pas de dormir, il n'a pas de fin de mois difficile, il n'y a pas de souci. Ça amène à regarder de plus près cet Émirat Arabe Uni. Donc, totale liberté, immense richesse, pratiquement pas de population pour contrôler, une police qui surveille très très bien les 9 millions d'autres qui n'ont aucun droit, je précise, hein, donc qui sont des prolétaires venant, parlant différentes langues, qui parlent l'ourdou, l'afghan, le pashtoun, enfin tout ce qu'on veut, donc qui sont divisés eux-mêmes en sectes, religions d'origine différente. Il y a aussi des philippins, etc. Bon. Donc c'est une population qui ne vit pas sous la terreur, il faut qu'ils travaillent, mais qui est dans l'incapacité matérielle d'organiser sa défense par rapport aux conditions qui lui sont faites, puisqu'ils se connaissent à peine. Tel est ici sur un chantier, la surveillance policière est permanente, etc. Si vous n'êtes pas gentil, vous reprenez, on vous met à la porte tout de suite. Bon, c'est une, pour l'émir, c'est une situation de tout pouvoir sur cette population-là. Et il faut savoir que cette situation, donc cette extrême liberté, qui est la liberté du dictateur sans aucun contrôle, sans aucune opposition, permet à la République, enfin les Émirats Arabes Unis, plutôt, c'est pas une république, pardon pour le lapsus, de faire un peu ce qu'ils veulent partout où ils le veulent. Et il se trouve que ces dernières années, alors les Émirats Arabes Unis ne sont pas indépendants depuis très longtemps, puisque la Grande-Bretagne leur a accordé l'indépendance en 1971. Mais depuis, ils ont bien grandi, et puis ils ont pris, j'allais dire, de la graine, c'est-à-dire ils se permettent d'intervenir un peu partout dans le monde du Moyen-Orient. Des exemples, parce qu'on ne le connaît pas et ça mérite d'être expliqué. Des exemples. Là, les Émirats Arabes Unis ont beaucoup contribué à la chute du gouvernement de Kadhafi en 2011. Parce qu'ils ont envoyé, alors ils ont de l'argent, donc ils achètent des avions, et en particulier, donc ils mettent des avions à disposition de qui les intéresse. Et donc les Émirats Arabes Unis, en 2011, ont mis tout leur matériel à la disposition de l'OTAN pour faire s'écrouler le régime de Kadhafi. Bon, ça, c'est une première donnée qui est très, très importante. Et je le signale d'autant plus qu'on parle en ce moment d'une possibilité d'une réunification de la Libye avec une prise de pouvoir par le fameux maréchal Haftar qui gouverne pour l'instant, disons, la partie est, la Cyrénaïque. Ce n'est pas impossible que ça ait lieu. Il y a différents mouvements de population, différentes manifestations à Tripoli qui vont un peu dans ce sens-là. C'est possible. Moi, j'ai un peu d'espoir que la Libye reprenne sa souveraineté sur elle-même. Mais ça sera probablement par le biais du maréchal Haftar, on verra. Mais de toute façon, les Émirats seront là avec leurs avions, leurs forces militaires et leurs dollars pour aider à cette prise de pouvoir. Donc ils auront un rôle très très important. Deuxième endroit où ils se sont manifestés, alors avec moins de succès, mais vous allez voir que c'était assez intéressant comme démarche. Vous savez que la Somalie, qui est un pays très très faible et qui est affaibli par une guérilla donc islamiste au sud, avec à la frontière du Kenya, a une de ses parties, qu'on appelle le Somaliland, qui est en pratique l'ancienne Somalie britannique, qui a déclaré son indépendance, qui n'a été reconnue par personne, mais qui est une indépendance qui fonctionne. Vous avez donc au nord de la Somalie un morceau du territoire qui est gouverné avec un gouvernement, qui a une armée, qui a des diplomates ici et là, qui a un port sur le golfe d'Aden, etc., sur lequel le gouvernement de Mogadiscio, le gouvernement somalien, n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire ils vivent séparés, le gouvernement somalien est trop faible, c'est comme ça. Et donc, ces dernières années, les Émirats arabes unis ont tenté une opération assez vicieuse que je vais essayer de vous détailler. Ils se sont rendus compte, tout le monde peut le comprendre, que l'Éthiopie, qui est aujourd'hui un des grands pays d'Afrique, qui traverse une phase de développement extrêmement importante, alors il y a 120 millions d'Éthiopiens aujourd'hui, et ce qu'on sait de la transformation de l'économie éthiopienne est assez stupéfiant, en termes d'activité agricole, industrielle et tout, c'est un pays qui est en train de beaucoup, beaucoup se transformer. Et donc ce pays, qui est enclavé, comme disent les géographes, cherche un débouché vers la mer. Puisque, en fait, son débouché vers la mer, c'est Djibouti, mais Djibouti n'appartient pas à l'Éthiopie, puisque Djibouti est un État indépendant. Et donc, les Émirats arabes unis étaient venus mettre leur grain de sel en disant à l'Éthiopie, écoutez, nous, on s'entend bien avec les gens du Somaliland, vous pouvez y faire un port éthiopien, j'aurai l'accord des gens de la Somaliland, qui sont d'accord, vous leur payerez un droit pour avoir votre port. Et l'Éthiopie avait cédé un peu à ce mirage. Et puis l'Éthiopie s'est reprise parce qu'il y a eu des réactions internationales. D'abord, le gouvernement de Mogadiscio a dit « Mais attendez, la Somaliland, c'est formellement encore la Somalie. » La Turquie est venue mettre son grain de sel. Monsieur Erdogan a promis au gouvernement de Mogadiscio de le soutenir si jamais la province de Somaliland devenait effectivement indépendante. C'est mis en travers donc, du projet éthiopien des Émirats arabes unis. Et depuis, l'affaire a été un peu mise en sourdine. Mais c'est dire que les Émirats arabes unis sont extrêmement remuants, interviennent dans des situations politiquement douteuses et ils mettent dans ces situations leur capacité financière et leur capacité militaire. Ça, c'est important à savoir. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister. Alors, je ne parle pas de la Syrie où effectivement les Émirats arabes unis ont financé une partie des milices qui faisaient la guerre au gouvernement légitime de la Syrie, donc de Bachar el-Assad, pour mémoire comme d'habitude. Et j'en viens au dernier point le plus important qui est la question du Soudan. Alors le Soudan, vous le savez qu'il y a donc une opposition depuis la chute donc, du gouvernement, du grand gouvernement donc, de Omar al-Bashir, il y a une opposition entre un gouvernement légal, qui est le gouvernement d'Al-Burhan, et le gouvernement, les FSR, les forces de soutien rapide, qui se sont fâchés, qui étaient d'accord, qui se sont fâchés. Et donc il y a une guerre civile qui s'est intensifiée depuis 2 ans maintenant, qui dure et dont on ne voit pas à l'issue. Et en fait, il se trouve que les Émirats arabes unis financent un des deux camps, le camp de l'opposition au gouvernement officiel. Bon. Alors financer, ça veut dire envoyer de l'argent, et puis ça veut dire éventuellement mettre à disposition des avions de chasse et aller bombarder ici et là les troupes de l'adversaire. Bon. Ça c'est connu. Qu'est-ce qui motive les Émirats arabes unis là-dedans? Il y a un autre aspect sur lequel il y a beaucoup d'informations, il suffit de la chercher, c'est-à-dire que le Soudan est le troisième producteur d'or de toute l'Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Mais à la différence de l'Afrique du Sud et du Ghana, où les choses sont à peu près contrôlées par l'administration, le commerce de l'or au Soudan est totalement livré aux plus armés, aux plus audacieux de ces exploitants. Et donc, en pratique, on sait qu'une bonne partie du trafic de l'or soudanais se fait au profit des Émirats arabes unis, par des voies donc de clandestinité, mais dans un pays de guerre civile, c'est assez facile, et que c'est les Émirats arabes unis qui mettent sur le marché mondial l'or du Soudan. Voilà. Et donc, c'est très important de se rendre compte que ce régime-là, qui paraît si propre comme M. Donald Trump l'honneur de sa visite, c'est un régime qui n'a pas les mains propres du tout, qui se mêle de ses affaires dans la totalité du monde musulman autour de chez lui et qui n'est contrôlé absolument par personne. Ça, c'est très, très important à savoir. Et puis, il faut savoir que la France entretient de très, très bons rapports avec les Émirats arabes unis. Pourquoi ? Mais il se trouve que sous la présidence d'un certain Nicolas Sarkozy, la France a déménagé sa principale base militaire dans cette région-là du monde, alors qui était à Djibouti. Ben ça, c'était historique, c'était la suite de la colonisation. Alors, il reste à Djibouti une petite présence militaire française, mais comme il y a beaucoup d'autres occupations, enfin, présence militaire, les États-Unis, bien entendu, la Chine, le Japon, enfin, tout le monde a des bases militaires là-bas. Et donc, la France s'est déplacée, et la principale base militaire française dans cette région-là du monde est à Abu Dhabi. Voilà. Et oui, ça c'est bon à savoir. Donc on a de très très des liens très très étroits. Alors la France marchande d'armes vend du matériel militaire à Abu Dhabi et puis utilise d'une part les facilités portuaires. Il faut savoir que notre porte-avions peut aller faire escale à Abu Dhabi, il y a la place pour l'accueillir. Toute notre flotte de guerre peut aller à Abu Dhabi dans le port qui nous est réservé. Nous avons là des camps d'entraînement pour l'armée des Émirs, des Émiratis, et nous avons là des terrains d'aviation qui permettent à l'occasion d'aller bombarder la Syrie. Ah, pourquoi bombarder la Syrie ? Ben, il faut que vous sachiez, je remets tout ça dans son contexte, qu'à un moment donné, il a été décidé par les États-Unis de former ce qu'on appelle une coalition. Alors qu'est-ce que c'était la coalition ? C'était de dire qu'il fallait, au moment où il y a eu un risque que le califat, c'est-à-dire que Daesh prenne tous les pouvoirs en Syrie, de trouver un moyen et un endroit pour pouvoir limiter l'avancée du califat et de Daesh sur le territoire syrien. Alors, vous savez, la double ambiguïté qui est classique, c'est-à-dire vous faites monter un pouvoir terroriste et puis en même temps vous amenez vos forces à vous pour dire il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Donc on voit toujours l'un précédant l'autre, c'est-à-dire le premier c'est l'arrivée des groupes terroristes et la deuxième c'est la riposte, il ne faut pas que les terroristes prennent trop de place, donc on envoie notre armée. Et donc c'est pour ça que l'armée américaine s'est installée donc, dans le nord-est de la Syrie et la France faisait partie de cette coalition. Alors c'était plus modeste, on n'avait pas beaucoup de troupes au sol, mais on avait des avions qui à l'occasion allaient pouvoir bombarder les positions de Daesh sur le sol syrien. Et ces avions partaient soit de la base d'Abu Dhabi, soit d'une autre base qui est en Jordanie, donc il y avait juste la frontière syrienne à franchir. Et donc les liens entre les interventions françaises dans la région de la Syrie en particulier, les liens militaires, sont extrêmement étroits. Voilà ce que c'est que cet émir qui, alors, à reprendre les propos de Trump et le papier de la Maison-Blanche, là, c'est ceux qui sont en train de construire des États nouveaux, c'est le progrès du Moyen-Orient et tout. On a affaire à des gens pas propres sur eux, à des gens qui sont dans tous les trafics, qui sont toujours prêts à mettre leur argent et leurs forces militaires au service de coups tordus. Mais de toute façon, on a affaire au temple, un des temples avec l'Arabie Saoudite, de la réaction internationale. Que les choses soient bien, bien claires de ce point de vue-là. Il faut bien les caractériser pour ce qu'ils sont. Voilà. Alors, vous allez dire beaucoup de propos pas très stimulants. Alors, je vais finir sur une réunion plus intéressante, c'est-à-dire qu'il s'est réuni à Pékin ces derniers jours, une réunion de ce qu'on appelle la CELAC, la Commission économique latino-américaine et des Caraïbes. C'est-à-dire qu'il a été l'occasion à Pékin de faire le point de la collaboration entre la Chine et de tous les pays donc d'Amérique latine et des Caraïbes et de faire le point sur la qualité et le contenu de ces opérations économiques. Alors là, on a affaire à quasiment deux mondes opposés. C'est-à-dire, on a d'un côté Trump qui arrive ou Noboa qui vend ses bananes et qui vend les Galapagos. Tous les autres pays ont des relations assez étroites et de plus en plus étroites avec la Chine. Même des pays politiquement très très propres, je pense au Pérou, je pense au Chili, je pense à l'Équateur, ont malgré tout des relations économiques. Il faut savoir que la CELAC, ça veut dire des milliards d'investissements dans des choses concrètes. C'est-à-dire, on a là, c'est presque exemplaire, mais c'est un peu la même chose en Afrique, mais là, c'est unifié à la taille d'un continent, c'est-à-dire qu'il y a un continent entier, au moins ce qu'on appelle l'Amérique latine, qui fait l'objet d'un programme coordonné, suivi et de longue haleine de la part de la Chine pour dire, vous avez besoin d'un certain nombre d'équipements, on est là pour vous aider à faire de nouvelles routes, à faire de nouvelles usines, à faire de nouveaux ports, à faire tel ou tel type d'installation industrielle, on le fait en partenariat avec des entreprises locales, on vous aide à vous développer. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, aider un pays à le développer, c'est pas simplement lui vendre des canons pour qu'il règle des comptes avec son voisin d'à côté, c'est même faire exactement l'inverse. C'est lui dire, vous avez, et c'est là qu'on retrouve la position chinoise qui est une position historique, c'est-à-dire la Chine se considère encore aujourd'hui comme un pays du tiers-monde. Du tiers-monde, sortant petit à petit du sous-développement, mais elle dit, je connais très bien ce que sont ces gens-là, je veux les aider à sortir du sous-développement. C'est vrai pour les pays africains, comme c'est vrai pour les pays latino-américains. Et les aider à sortir du sous-développement, ça ne veut pas dire leur vendre des canons, ça veut leur dire de quoi avez-vous besoin ? Si vous avez besoin de ça, on va aider à financer, on va le faire en partie, sous contrat, etc. C'est ça les relations qui sont antithétiques des relations de l'impérialisme avec ces pays-là. Et c'est tellement visible dans cette commission d'économie latino-américaine que la mission qui a été confiée par Trump à M. Rubio, son ministre des Affaires étrangères, c'est dire, et ça la consigne de Trump, on l'a vu écrite, elle dit c'est très clair, il faut absolument que nous gardions l'Amérique latine chez nous. L'Amérique latine nous appartient. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est la doctrine Monroe qui répète et tout, mais il s'aperçoit que là, ça commence à lui échapper. Alors, c'est un combat de longue haleine. Je reviens sur la question du Panama, où pour l'instant, c'est les États-Unis qui ont marqué le point. Dans un dossier d'ailleurs qui n'est pas clos, mais c'est les États-Unis qui ont marqué le point, et donc ils ont réussi à repousser un peu l'influence et à faire sortir au moins le Panama des accords sur la route de la soie qui avait été signé par le président panaméen. Par contre, ce qui s'est passé à Pékin la semaine dernière, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le président colombien est venu dire que son pays demandait à participer à la route de la soie. Alors là, ça doit beaucoup, beaucoup faire de peine à M. Rubio, parce que vu des États-Unis, la Colombie reste encore un pays tout à fait dépendant des États-Unis. Il y a encore des bases militaires, il y a encore tous les liens liés au narcotrafic, etc. Et M. Petro, Gustavo Petro, le président de la République colombienne, qui est venu donc à Pékin à l'occasion de ce sommet, a pris ce risque. Je pense que c'est un risque. Alors, c'est un risque intelligent et choisi. Il a pris ce risque, c'est-à-dire dire « moi, je vais du côté de ceux qui m'aident à me développer ». Et sous-entendu, je vais du côté de ceux qui m'aident à échapper à l'emprise états-unienne. Voilà. Monsieur Petro gagnera-t-il son pari ? C'est pas assuré parce que sa position politique intérieure est relativement faible. Il faut savoir que quand il a annoncé ça, son propre ministre des Affaires étrangères a dit le contraire. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que c'est gagné. Mais il se joue là un gros morceau. La Colombie, c'est presque 50 millions d'habitants. C'est un pays où il y a de grosses ressources. Donc il va se jouer toute une série de parties sur le continent latino-américain. On y verra plus clair, je pense, au sommet des BRICS qui aura lieu au Brésil à la fin du mois prochain, sur cette emprise ou cette tentative des latino-américains d'échapper aux grands frères américains. Voilà ce que je voulais dire pour continuer. Merci Roselyne et merci pour cette lecture. Et on se retrouvera mardi prochain à la même heure.